Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes seigneurs, bien chers confrères dans le sacerdoce, bien chers séminaristes, mes chers fidèles, vous êtes venus ici, sur cette prairie, déjà tant de fois bénie par cette bénédiction céleste, des ordinations sacerdotales. Vous êtes venus ici pour recevoir quelque chose de ce jaillissement dans le temps de la miséricorde, de la toute bonté éternelle qui, par l'imposition de nos mains, va consacrer ces diacres pour en faire des prêtres. Vous êtes venus ici à la source de la sanctification de l'Église, car sans prêtres, il n'y a pas d'Église. Sans prêtre, il n'y a pas de sainteté. Et ainsi, Dieu qui s'est choisi ses lévites, Dieu qui les a appelés, va dans quelques instants, en les marquant du caractère sacerdotal, transformer leur âme, les élever bien, bien au-dessus de tous les hommes, en les établissant in isque sunt ad Deum, dans les choses qui sont de Dieu, dans le culte de Dieu. Dans quelques instants, ils vont être consacrés prêtres. Prêtres selon l'ordre de Melchisédek, prêtre uni d'une manière indicible à notre Seigneur Jésus-Christ dans son union hypostatique. Et puisque il est le propre du sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, de faire de notre Seigneur Jésus-Christ aussi la victime de son sacrifice, ainsi nous n'allons pas seulement consacrer des prêtres, nous allons consacrer pour vous, pour la Sainte Église, des hosties saintes, immaculées, avec, dans l'hostie qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Jamais nous ne pourrons contempler assez, jamais nous ne pourrons comprendre la grandeur du prêtre et sa fonction primordiale d'offrir avec notre Seigneur Jésus-Christ, d'offrir en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, d'offrir Jésus-Christ à la très sainte Trinité, d'offrir le sacrifice de notre Seigneur en louange, en adoration à la très sainte Trinité, à la divine, à l'immense majesté de Dieu. Le prêtre élève vers Dieu cet acte indicible de l'offrande de notre Seigneur. Il élève au nom de notre Seigneur lui-même en louange infinie à Dieu. Il offre au nom de l'Église au nom de toute l'Église. Il mêle ainsi, médiateur entre Dieu et les hommes, il mêle la louange, la prière de l'Église à la louange et à la prière de notre Seigneur, afin qu'il n'y ait plus qu'une seule louange qui s'élève vers Dieu, la louange, la prière, la réparation, la satisfaction du Verbe incarné, du Verbe fait chair. Et c'est grâce aux prêtres qui sacrifient, que les fidèles peuvent, eux aussi, offrir par le prêtre à la très sainte Trinité ce même Jésus-Christ. Oui, à la très sainte Trinité, l'Église, par le prêtre, offre le Fils de Dieu. C'est par le prêtre que les fidèles, dans le sacrifice, peuvent s'unir aux intentions, à la volonté de notre Seigneur lui-même dans son sacrifice. Et ainsi, être sanctifiés eux-mêmes, recevoir une part des mérites de la croix qui sont remis tout entiers dans les mains du prêtre au moment de la consécration. Mais le prêtre est prêtre pour la très sainte Trinité et aussi pour les hommes. Il est établi auprès des hommes pour défendre les intérêts de Dieu. Mais il est aussi établi afin de les amener à Dieu, afin de les sanctifier, afin de leur donner le pardon de Dieu, afin de faire couler dans leur vie la vie même de Dieu, afin de transformer leurs âmes dans notre Seigneur Jésus-Christ, afin de les faire cheminer de la Trinité, du baptême, comme dit le Père Philippon, à la Trinité du ciel, à travers tous les crucifiements du cheminement terrestre. Oui, il n'y a rien de plus grand sur terre que le prêtre dans son sacrifice. Il dépasse tous les hommes. Il n'y a pas de plus grand bienfaiteur de l'humanité, de l'Église d'abord, de toutes les âmes, que le prêtre. Et c'est à lui, pensez-y, mes bien chers amis, qui dans quelques instants allait être ordonné, c'est à vous que Dieu va confier l'éternité des âmes. C'est à votre action sanctificatrice, c'est d'elle que va dépendre sans aucun doute l'éternité, le salut de Dieu sait seul combien d'âmes. C'est vous qui présiderez dès la naissance à la sanctification de ces âmes. C'est par votre action sacerdotale que ce soit le offéré, l'offrande, le sacrifice, que ce soit la prédication, que ce soit les sacrements, le baptizare, que ce soit le pré-essé, dans tous ces actes, eh bien, une seule pensée, amener les âmes à Dieu. en faire des saints. Qui ne comprend qu'une telle mission ne peut s'accomplir que dans la contemplation. Un prêtre doit être une âme d'oraison, une âme contemplative, une âme constamment tournée vers la très sainte Trinité, afin de pouvoir tout d'abord savoir ce qu'elle est, savoir ce que le prêtre est un peu davantage, afin de connaître ce que vous faites, agnoscite quod agitis, afin de pouvoir imiter ce que vous ferez, imitamini quod tractatis. Oui, ce n'est que dans cette contemplation, que dans cet esprit d'oraison, que vous assurerez la fidélité à votre sacerdoce et aussi la stabilité, la pérennité des œuvres apostoliques que vous allez entreprendre. En effet, ce n'est pas vous en tant qu'homme, ce n'est pas en vous appuyant seulement sur vos qualités que vous vous ferez quelque chose dans cette œuvre. C'est Dieu qui le fera à travers vous, et pour autant que vous soyez unis à lui. Je parle de toutes ces œuvres de l'apostolat. Si vous n'êtes unis à Dieu, si vous avez viré dans l'activisme, comment ces âmes qui se seront réjouies à la beauté de vos paroles garderont cette stabilité dans l'épreuve? Et les œuvres que vous aurez entreprises, qui leur donnera cette stabilité pour résister à toutes les épreuves qui lui arriveront? C'est Dieu. Et nous voyons dans toute l'histoire de l'Église que c'est la sainteté des hommes de Dieu qui a assuré à leur œuvre cette pérennité par-dessus les âges. Ne vous laissez jamais dévier, arracher à cette vie contemplative, à cette vie d'oraison, quelle que soit la somme d'activité qui vous reviendra, d'autant plus que votre apostolat s'exerce dans des circonstances difficiles, qui sortent de l'ordinaire. Ici, nous aimerions rappeler à vous-même et aussi à vous, mes bien chers frères, afin d'éviter toute erreur qui pourrait s'y glisser, rappelez que l'apostolat de nos prêtres et d'autant plus de nous-mêmes, de vos évêques, est un apostolat de suppléance. Et sur une petite image, empruntons à notre Seigneur une parabole, dans un sens certes accommodatis, en précisant que nous n'utilisons que quelques parties de l'image. Ces circonstances dans lesquelles se déroule notre apostolat sont un peu celles que décrit notre Seigneur lorsqu'il parle de cet homme qui descendait de Jérusalem vers Jéricho. À un certain moment, des brigands le dépouillent, le battent, le blessent, le laissent gisant à demi-mort sur le chemin. N'est-ce pas un peu l'histoire de vos âmes, mes bien chers frères? Nous voyons, cela ne date pas d'aujourd'hui, que tous ceux qui en haignent le nom de Dieu se sont ligués contre l'Église pour tout d'abord lui arracher cette aura, cette influence si bénéfique jusque dans la société civile. Par exemple, Pie IX dévoilait, après avoir arraché ses textes à la haute vente, les intentions de la secte, des francs-maçons. Et nous voyons que depuis, ce plan se réalisait sous nos yeux chaque jour davantage. Plan qui consiste tout d'abord à ravir tout ce que nous appelons aujourd'hui la chrétienté, tout cet esprit chrétien qui s'est répandu, qui influe jusque dans la société. Toutes ces lois chrétiennes qui donnaient aux âmes la tranquillité et la paix du doux joug de notre Seigneur. Ainsi nous les voyons tout d'abord détacher l'Église, rompre ce lien vivifiant entre l'Église et l'État. Nous les voyons s'attaquer à la famille par des lois destructrices. Nous les voyons ensuite s'infiltrer jusque dans le sein des saints. Nous les voyons continuer leur œuvre et ainsi, oui, vraiment dépouiller l'âme chrétienne de ses biens qui lui appartiennent, auxquels elle a droit. La dépouiller en lui proposant une foi altérée. La dépouiller en lui imposant une messe qui vide les églises. Et cela n'est pas seulement dépouiller l'âme, cela est vraiment la blesser. La blesser au plus profond d'elle-même. Et ainsi les âmes gisent. Et les prêtres et les lévites passent en vous regardant avec mépris. Ces prêtres, ce sont les curés, ce sont les évêques, ceux qui, de droit, ont la charge de vos âmes. Ils vont même jusqu'à vous persécuter. Alors la divine providence a fait en sorte qu'un samaritain passe par là. Un samaritain, c'est-à-dire, pour les juifs, un étranger, quelqu'un qui, à strictement parler, n'a pas cette autorité directe sur vous, mais un bon samaritain. Bon parce que cela ne s'adresse pas seulement aux vertus, aux qualités qui l'animent, mais parce que l'acte qu'il fait se fait dans l'ordre de la charité. Cet ordre de la charité qui, dans certains cas, des cas de nécessité, vient jusqu'à bouleverser l'ordre de la structure strictement juridique de l'Église. Suprema lex salus animarum, la loi suprême, celle qui guide tout, c'est bien cet ordre de la charité, le salut des âmes. Et cet évêque venu de loin, qui repose aujourd'hui dans un caveau au sommet de ce pré, cet évêque vous a mis sur un âne. Nous pourrions dire, cet âne, eh bien ce sont les œuvres de la tradition. Parce que d'une part, eh bien, tous ceux qui nous regardent du dehors nous traitent comme des ânes, comme des gens qui n'ont rien compris, comme des gens qui sont en dehors de leur temps. Peut-être aussi sur un âne, parce que dans cette bête s'exprime l'obstination, l'entêtement. Obstination et entêtement à suivre le chemin sans dévier ni à droite ni à gauche qui conduit à l'auberge du ciel. Eh bien, chers frères, que serions-nous devenus si ce bon samaritain n'était pas passé près de nous, s'il n'avait pas répandu sur nos blessures cette huile sainte des sacrements, de la foi catholique, s'il ne nous avait pas revigorés avec cette huile précieuse? Eh bien, il ne fait aucun doute que nous ne serions pas ici, que cette cérémonie n'aurait pas lieu. Peut-être serions-nous encore sur le chemin gisant. Non seulement ce bon samaritain a été rappelé par Dieu, mais un autre bon samaritain que suscité aussi par Dieu au Brésil a été rappelé presque en même temps. Et voilà, mes bien chers frères, que ces fidèles, ces prêtres orphelins nous demandent eux aussi un bon samaritain. Comment pourrions-nous le leur refuser? C'est ainsi, suivant cela, le projet esquissé par Mgr Lefebvre lui-même, dans le même esprit où il nous a consacré lui-même, avec Mgr de Castromaillère, évêque de l'Église catholique. C'est ainsi que nous faisons les instruments responsables. Eh bien, nous avons décidé d'accéder à cette demande des prêtres, des fidèles du diocèse de Campos, dont je vous rappelle, la majorité est restée fidèle. Des milliers et des milliers de personnes entourent ces prêtres, curés, qui ont été chassés de leur paroisse. Un petit exemple pour vous donner une idée de cette importance. Juste maintenant, l'un des prêtres est en train de construire une église pour sa petite paroisse, une église qui contiendra environ 700 places, en même temps qu'un collège pour 2000 élèves. Ce sont des chiffres que nous n'atteignons encore de loin pas ici. Et c'est pourquoi je me permets, au nom de mes chers confrères et à mon nom, de vous lire une déclaration. Déclaration des quatre évêques catholiques, sacrée par Mgr Lefebvre le 30 juin 1988, au sujet d'un sacre épiscopal à Campos. En annonçant notre décision de sacrer un évêque le 28 juillet prochain dans le diocèse de Campos, Brésil, nous tenons à faire connaître par cette déclaration le but et le sens de cet acte. Son but n'est autre que de continuer l'opération survie de la foi catholique, opération qu'a lancée Mgr Marcel Lefebvre il y a 3 ans, en sacrant les 4 évêques auxiliaires de la Fraternité Saint-Bidis à Écône en Suisse. En ce temps-là, Rome s'est montrée incapable de fournir aux nombreux fidèles qui suivaient la Fraternité Saint-Bidis un évêque qui prêcha la foi catholique et en garantit la protection et la survie par les sacrements de l'ordre et de confirmation que seul un évêque peut administrer validement. Cette fois, ce sont des dizaines de milliers de fidèles du diocèse de Campos dont la foi catholique est en danger si l'évêque qui les a formés dans la foi de toujours et qui est mort le 25 avril dernier, Monseigneur de Castromayer, n'est remplacé que par un évêque nommé par la Rome actuelle. En effet, lorsqu'en 1981, Monseigneur de Castromayer dut démissionner de sa charge d'évêque de Campos, son successeur immédiat, Don Carlo Navarro, déclencha une persécution contre les fidèles, contre les prêtres fidèles, c'est-à-dire la quasi-totalité du clergé diocésain, qui persévérait dans la fidélité à la foi catholique et au saint sacrifice de la messe. Et jusqu'à sa mort récente, ce fut Monseigneur de Castromayer qui fut l'âme d'une résistance héroïque du troupeau fidèle. Maintenant, il n'est plus là. Alors, de même qu'en 1988, Monseigneur de Castromayer est venu en Suisse comme évêque catholique pour consacrer avec Monseigneur Lefebvre les quatre évêques de la Fraternité Saint-Pédis. Ainsi, en 1991, ces quatre évêques se rendent au Brésil en tant qu'évêques catholiques pour permettre aux anciens fidèles et prêtres de Monseigneur de Castromayer de continuer de vivre la foi catholique intégrale que celui-ci leur a transmise. Les questions et réponses qui suivent, que je ne vous lirai pas afin de pas trop allonger la cérémonie, ainsi que les deux documents écrits par Monseigneur Lefebvre à propos de ce sacre, permettent de comprendre dans le détail le bien fondé de notre décision et de procéder à cet acte. Écône et Buenos Aires, le 27 juin 1981, signé Monseigneur Bernard Tissier de Malleret, Monseigneur Richard Williamson, Monseigneur Alfonso de Galarreta et votre serviteur. Mes bien chers frères, en cette fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est à lui que nous confions cette œuvre, en même temps que nous appelons la bénédiction divine sur cette œuvre par l'intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours, nous confions à son patronage et cette œuvre prochaine et l'ordination actuelle, l'ordination d'aujourd'hui, afin que par ses actes, une bénédiction plus grande retombe sur toute l'Église, que le joug des modernistes soit secoué, que la grâce se répande toujours davantage, ceci pour le salut des âmes, pour l'honneur de l'Église, pour la gloire de la très sainte Trinité, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, en cette fête de la Pentecôte, en cette fête du Saint-Esprit, en cette fête aussi de l'Église, essayons de considérer, de contempler les liens qui unissent le Saint-Esprit et la Sainte Église. Dans l'Écriture sainte, nombreux sont les passages qui nous révèlent quelque chose de ce lien. Saint Paul, dans presque toutes ses épîtres, Saint Luc, dans les Actes des Apôtres, qui décrit le début de l'Église, nous montre partout cette influence du Saint-Esprit. Les pères de l'Église, commentant ces textes, tout particulièrement Saint Grégoire de Nazianze, Saint Athanase, et encore plus Saint Augustin, utilisent une analogie, qui a été ensuite reprise par Pie XII dans l'encyclique Mystici Corporis. Partout, on nous dit que l'influence, que le rapport du Saint-Esprit à l'Église, sur l'Église, est celui de l'âme, sur le corps. Le Saint-Esprit est l'âme du corps mystique. L'analogie n'est cependant pas parfaite. Nous ne pouvons pas comprendre l'Esprit Saint comme étant la forme substantielle du corps mystique, comme l'âme est cette forme substantielle du corps. Mais cependant, nous y voyons en tout cas deux éléments très importants. D'une part, l'âme est le principe d'unité, le principe unificateur du corps. Et ensuite, l'âme est le principe vivifiant, vivificateur, celui qui donne la vie au corps. Principe unificateur, tout d'abord, dans l'Église, traditionnellement, nous disons que, ou nous constatons plutôt, une diversité de membres, une diversité de peuples, de langues, de nations, de cultures. Ainsi, dans le corps, nous voyons une diversité d'organes, de toutes sortes, une diversité d'opérations. Eh bien, dans le corps humain, toutes ces diverses parties sont ramenées à l'unité par l'unité de l'âme. Ainsi, dans l'Église, la diversité des peuples, la diversité des fonctions, tout est ramené à l'unité par l'Esprit Saint, sous trois aspects différents. Dans l'unité de la foi, dans l'unité de la grâce, des sacrements, de la liturgie, et enfin dans l'unité de la discipline, dans l'unité du gouvernement. Selon cette triade que nous trouvons dans saint Paul, « Unus Dominus, una fides, unus baptismum », il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Ensuite, l'Esprit Saint et l'Esprit vivificateur. Toutes les parties du corps humain reçoivent le principe du mouvement et de la vie de l'âme. De l'âme qui se trouve tout entière dans chacune des parties. Ainsi, le Saint-Esprit donne la vie à toute l'Église, comme à chacun de ses membres, et il se trouve tout entier dans chacun des membres vivants de l'Église, dans chacun des membres qui sont dans l'état de grâce. Esprit, Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité, qui donne cette vie de la foi à l'âme, qui la nourrit dans la connaissance des vérités surnaturelles. Esprit de charité, Esprit qui vivifie toutes les vertus, donc toute l'opération, toute l'action des enfants de Dieu, qui sont mus par cet Esprit de Dieu. Ceux qui sont mus par l'Esprit de Dieu, voilà les vrais enfants de Dieu, nous dit saint Paul aux Romains. Esprit Saint qui dirige toute la Sainte Église, Esprit Saint garant de l'indéfectibilité, de l'infaillibilité des jugements solennels du souverain pontife, et de ces assemblées solennelles que nous appelons les conciles écuméniques. Et alors on nous fait une objection en lui disant, mais précisément, vous rejetez, vous, cet Esprit Saint, dans ce dernier concile écuménique et dans tout ce qu'il a suivi. Il nous faut considérer, mes bien chers frères, cette objection, en demandant quel est cet esprit que l'on appelle l'esprit du concile ou l'esprit post-conciliaire au nom duquel on fait à peu près tout aujourd'hui dans l'Église. Considérons cet esprit sous ce premier aspect de l'unité. Dans l'Église, on a toujours accepté cette parole de la diversité dans l'unité, en ce sens que la diversité des peuples, comme nous l'avons déjà dit, diversité des civilisations, des cultures, des âges, des situations, était ramenée à l'unité. Et c'est précisément ce qui fait que l'Église est catholique. Aujourd'hui, on utilise ce terme d'unité dans la diversité, dans un tout autre sens. En fait, on va appliquer cette thèse, ce principe, dans ce qui était avant l'unité, c'est-à-dire au niveau de la foi, au niveau de la liturgie et aussi au niveau du gouvernement. On nous dit unité dans la diversité. Regardons un peu l'unité de la foi. L'unité de la foi provient de l'objectivité de la connaissance, de l'unité de l'objet de la foi, qui est Dieu. Dieu sous sa raison de déité, Dieu dans son intimité. Parce que tous ces fidèles catholiques croient en ce Dieu, sont amenés par la foi à adhérer à cette vérité. Il y a unité dans la foi. On a remplacé cette objectivité de la connaissance en appuyant le sujet, c'est-à-dire celui qui connaît. D'une part, on refuse à l'intelligence qu'elle puisse atteindre l'essence des choses. Ensuite, on la cantonne dans elle-même, dans le sujet et dans les circonstances de lieu, de temps, circonstances accidentelles dans lesquelles elle se trouve. Donnons une petite image. Si nous avons quatre personnes qui regardent une maison, ces quatre personnes étant situées aux quatre angles de la maison, selon la doctrine classique de la connaissance, eh bien nous disons que ces quatre personnes, en connaissant, connaissent l'essence de la maison. Ils connaissent la même maison, même si chacun arrive à cette connaissance par une approche différente. Dans le nouveau système, eh bien, on insistera sur la diversité des positions. Et on vous dira que celui qui se trouve devant la porte d'entrée et qui dit « cette maison a une porte », cette phrase est tout aussi vraie que celle qui se trouve, que celle de celui qui se trouve à l'arrière et qui dit « cette maison n'a pas de porte, je ne vois pas de porte ». On réduit, oui, la connaissance à une perception subjective, conditionnée par les circonstances accidentelles dans lesquelles elle se trouve. Application à la foi. Eh bien, on vous dira, par exemple, que les dogmes ne sont que la perception de la vérité qu'a l'Église à un certain moment donné, dans certaines circonstances. Et donc, le dogme n'est vrai que dans ces circonstances et dans l'instant où l'Église a prononcé ce jugement. Dès que les circonstances ont changé, eh bien, il y aura une autre perception. On nous refuse que nous puissions connaître totalement la vérité. On nous refuse l'absolu de la vérité. il n'y a plus d'erreur parce qu'il n'y a plus de vérité absolue. Il n'y a plus que la diversité de points de vue. Ainsi, on nous dira que le point de vue des hindous vaut tout autant que le point de vue des musulmans ou du catholique lorsqu'ils regardent Dieu. S'ils expriment leur connaissance d'une manière différente, cela ne provient que des circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Cette relativité de la vérité qu'on exprime aujourd'hui, entre autres sous terme de vérité historique, mes bien chers frères, est partagée par les trois quarts, les quatre cinquièmes de ceux qui se disent catholiques aujourd'hui. Partout, on trouve cette erreur finalement monstrueuse, qui amène à dire que toutes les religions sauvent, qui amène un cardinal Ratzinger à relativiser des jugements pourtant très importants portés par les papes du siècle dernier contre le libéralisme, par exemple, ou de Saint-Pie X contre le modernisme, en réduisant ces jugements qui portent sur des matières doctrinales à de purs jugements prudentiels, c'est-à-dire dictés par les circonstances, un jugement pratique conditionné par les circonstances dans lesquelles se trouvaient ces papes. Un jugement donc tout relatif et qu'il faut nécessairement réviser lorsque ces circonstances changent. Ainsi, on a fait exploser l'unité de la foi. Chacun a sa petite foi. Chacun a sa petite vérité. Il n'y a plus l'unité de la foi. Unité dans la diversité, au niveau de la liturgie, par ce principe de l'inculturation. On a prétendu que le rite romain était l'expression d'une certaine culture, romaine qui était insupportable à d'autres cultures, et que par conséquent il fallait introduire dans le rite des particularités propres à chaque culture. Par là, on a fait sauter l'unité dans la liturgie. De là, ces choses plus que curieuses, ces sacrilèges de la messe au manioc au Kenya, de la messe au Coca-Cola pour les petits Américains avec leur culture américaine, de là la messe avec le prêtre habillé en arlequin pour cette même civilisation, les messes dansantes pour les Suisses alémaniques, la messe hindoue avec le prêtre accroupi, la Sainte Hostie sur ses genoux ou sur ses pieds. Voilà où mène cette inculturation, l'unité de la liturgie complètement brisée. L'unité du gouvernement, de la discipline, même principe, unité dans la diversité. Partant du principe que les pouvoirs réside dans le peuple de Dieu et non plus directement dans la hiérarchie. Nécessairement, on donne un droit aux récriminations, aux réclamations de ce peuple de Dieu. et place aux plus grandes diversités, tel cardinal brésilien qui prétend lors de la condamnation de la théologie de la libération que ce qui est condamné dans ce texte n'est qu'une vue particulière à Rome qui ne correspond pas à la théologie de la libération telle qu'elle est vécue au Brésil. Et de donner un exemple, pour Rome, le péché, c'est une rupture avec la loi de Dieu, tandis qu'au Brésil, le péché, eh bien, c'est qu'un riche, entendez, un exploiteur des pauvres, continue de s'appeler chrétien. Cette situation amène aussi ces réclamations que nous vivons tout près d'ici, en Suisse, où la masse des fidèles rejette un pasteur légitimement nommé. Principe d'unité. Et toute cette confusion à tous les niveaux. Et tout cela viendrait du Saint-Esprit, du principe d'unification. Unité dans la diversité, nous dit-on. Cette phrase n'est vraie que si l'on change le sens du mot unité, remplaçons-le par pagaille, et nous arriverons à une appréciation assez exacte de la réalité, oui. Pagaille dans la diversité au niveau de la foi, pagaille dans la diversité au niveau de la liturgie, et ainsi au niveau du gouvernement. Cet esprit du Concile, c'est un esprit de division. Ce n'est pas l'Esprit Saint. Et ceci se vérifie lorsque l'on considère le principe vivifiant. L'Esprit Saint est celui qui donne la vie à toute l'Église, principe de vie. Est-ce cet esprit de vie qui plane dans ces églises pleines de chaises vides, pour une assemblée dominicale sans prêtre? Est-ce la vie de l'Église? Est-ce l'esprit de vie qui préside à la vente de tous ces couvents vides, qui préside à ce vide des vocations? C'est un esprit de mort. Alors nous dira-t-on, où est donc l'Esprit Saint? Il a été promis jusqu'à la fin des temps à l'Église. L'Esprit Consolateur. Eh bien, certes, nous serons là devant un grand mystère. Jamais nous ne nierons que l'Esprit Saint ne soit pas là. Nous affirmons bien sûr sa présence, mais nous affirmons qu'il n'est peut-être pas là où on le dit, qu'il n'agit pas comme on le dit. Très certainement que l'Esprit Saint agit pour garder l'indéfectibilité de l'Église en empêchant qu'un tel concile se déclare dogmatique, qu'il empêche l'Église de défaillir en empêchant des déclarations trop hérétiques dans des cérémonies peut-être trop solennelles. Mais cet esprit de vie, cet esprit d'union, nous le voyons à l'œuvre. Sans aucune présomption de notre part, dans un grand étonnement, une grande admiration, nous voyons que cet esprit continue d'agir comme il agissait auparavant, dans toutes ces parties de l'Église, qui continue à faire ce que l'Église a toujours fait, dans toutes ces parties de l'Église qui s'attachent à garder ces trois principes d'unité. Oui, nous voyons cette vie, nous voyons cet esprit vivificateur éclater, disons timidement, parce que la tradition n'est pas bien nombreuse, c'est une réaction bien timide. Mais nous voyons cette vie de l'Église se développer, se manifester dans toutes sortes d'œuvres, que ce soit les séminaires, que ce soit les vocations religieuses, les familles chrétiennes, les écoles et toutes sortes d'autres institutions, l'apostolat. Nous voyons cet esprit qui est vraiment l'Esprit Saint à l'œuvre dans la tradition. Grand mystère que celui que nous vivons, mes bien chers frères. Et il nous faut nous unir à ce cri de l'Église aujourd'hui qu'elle répète plusieurs fois. Veni Sancte Spiritus, venez Esprit Saint, il nous faut l'appeler afin qu'il guide toutes nos actions, toutes nos opérations, toute notre vie, afin qu'il guide toutes nos œuvres, afin qu'il balaye cette confusion, ce désastre. Confusion des esprits, confusion de la foi, accompagnée de toutes sortes de sacrilèges lorsqu'il s'agit de rendre le culte à Dieu. Oui, bien chers frères, implorons l'intercession de la Sainte Vierge afin que le Saint-Esprit vienne donner un nouveau souffle. Un nouveau souffle à l'Église, que l'Esprit Saint fasse que cette crise terrible, impitoyable, se termine bientôt. Et ceci, bien sûr, pour le salut des âmes, pour l'Église, pour la plus grande gloire de Dieu, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers confrères, cher monsieur l'abbé Castelin, chers séminaristes, mes bien chers fidèles, en ce samedi des quatre temps de septembre, l'Église nous rappelle deux ou même trois cérémonie de l'Ancien Testament. Tout d'abord, le dixième jour du septième mois, c'est-à-dire le dixième jour du mois de septembre, Dieu avait demandé à tout le peuple d'Israël de faire pénitence. De toute l'année, c'était le jour de la grande pénitence. Et en ce jour, était offert un holocauste. Et le grand prêtre purifié dans la grande mer d'airain, purifié par le sang des animaux immolés, revêtu en quelque sorte de ce sang, pénétrer dans le Saint des Saints une seule fois par année, ce jour, pour présenter à Dieu ce sacrifice pour le pardon des péchés. Dans l'épître d'aujourd'hui, Saint Paul reprend cette pensée et la lie bien sûr, au grand sacrifice du Nouveau Testament. Ainsi, ce jour était éminemment sacerdotal. Un deuxième événement nous est rappelé Quelques jours plus tard, le 15e jour, à la fin des récoltes, on a porté à Dieu, cette fois-ci, les plus beaux fruits pour le remercier. Et à cette occasion, il y avait en plus la fête des tabernacles, en souvenir de ces 40 ans où le peuple d'Israël avait séjourné sous des tentes dans le désert. Mais revenons à ce jour des récoltes. Cette ordination, toute ordination, est un peu une récolte, la récolte d'un fruit mûr, après 6 ans de séminaire. Pour vous, cher monsieur l'abbé, nous dirions que c'est une récolte tardive. Mais néanmoins, c'est bien l'occasion de rendre grâce à Dieu. Un prêtre. Dieu donne à l'Église aujourd'hui, nous donne un prêtre. Une réalisation concrète, sensible, de ce qu'il a promis. Je serai avec vous tous les jours. Car le prêtre, c'est Jésus. Jésus parmi nous. Médiateur. Médiateur, instrument du souverain médiateur, par lequel le souverain prêtre s'oblige à donner ses dons, les dons de Dieu, choisis par pure miséricorde, dans un dessein insondable de Dieu, choisis parmi les hommes. Vous allez être revêtus aujourd'hui, revêtus du caractère sacerdotal qui vous fait participer au sacerdoce de Jésus, qui vous fait son instrument. Il vous donne, oui, le bon Dieu vous donne les clés du ciel. Il vous donne libre accès au trésor indicible de la très sainte Trinité, dispensateur des mystères de Dieu. Il vous laisse puiser autant que vous voulez, autant que vous pouvez, dans les dons de Dieu, afin que vous les répandiez sur les âmes, dans ces mérites que notre Seigneur a acquis pour sauver les hommes. Établi par Dieu, Inis qui sunt ad Deum, pour les choses de Dieu, pour représenter aux hommes ses intérêts de Dieu, pour rappeler aux hommes la gloire de Dieu, que les hommes sont faits pour cette gloire, pour louer, honorer, servir Dieu. Établi pour le sacrifice, établi pour intercéder par Jésus-Christ en notre Seigneur, intercéder pour les fidèles, implorer le pardon de Dieu, pour sanctifier. Qu'il est grand le prêtre.
Saint Curé d'Ars le disait, si nous comprenions ce qu'est le prêtre, nous mourrions. Devant cette bonté. Vous serez prêtre dans quelques instants. Dans quelques instants, Dieu va infuser en vous l'esprit de sainteté. Innova. In vicheribus eius spiritum sanctitatis. Innovez en lui, dans son sein, l'esprit de sainteté. Mais bien, chers frères, cette parole est l'une qui compose la forme même du sacrement de l'ordre. Forme qui produit ce qu'elle signifie ex opere operato. L'Esprit Saint va descendre sur vous, l'Esprit de sainteté. Car l'Église veut de ses prêtres qu'ils soient saints. Oh, elle sait que ces merveilles du bon Dieu, le bon Dieu les a déposées dans des vases fragiles. Oh, combien fragiles. Et il nous faut réfléchir aux moyens à prendre pour protéger ce sacerdoce. Considérons ce que la Sainte Église fait pour protéger, pour conserver le plus grand de ses trésors, qui est si intimement lié avec le sacerdoce, la Sainte Eucharistie. Lorsque l'Église conserve la Sainte Réserve, elle dépose le corps sacré de Jésus dans un ciboire. Elle exige, dès la consécration, elle exige que seules des mains consacrées, des objets consacrés puissent toucher notre Seigneur. Et lorsqu'il s'agit de la patène, du calice, du ciboire, elle exige de l'or. Elle demande que ce premier objet qui va rentrer en contact avec le corps sacré de notre Seigneur, son précieux sang, eh bien ce soit le plus noble des métaux, de l'or. Ainsi, le prêtre doit conserver son sacerdoce aussi dans de l'or, l'or de la charité. Le pontifical demande du prêtre cette charité double envers Dieu, envers le prochain. Et il y a un ordre entre ces deux charités. Lorsque notre Seigneur confie ses brebis à Saint Pierre, il ne lui demande pas « Simon, aimes-tu mes brebis ?» Il demande « M'aimes-tu » C'est un prérequisita beaucoup plus qu'une condition. Dieu exige de son prêtre qu'il l'aime afin de lui confier ses brebis. Afin que cet amour que le prêtre doit donner aux brebis soit un amour pour Dieu, qu'il évite ainsi la tentation d'une consolation peut-être, la tentation de faire son œuvre. Non, nous sommes des serviteurs inutiles, selon la parole du Maître. Et cet amour du prêtre, amour pour Dieu, amour pour les fidèles, comment pourrait-il mettre dans les âmes ce feu de la charité tant refroidi aujourd'hui s'il n'allait le chercher à sa source, dans le cœur sacré de Jésus, dans la très sainte Trinité, cette charité chez le prêtre trouve une expression toute particulière. Oh, certes, chez tout fidèle chrétien, mais bien particulièrement chez le prêtre. Cette charité s'appelle sacrifice. À la suite de notre Seigneur s'exprime la plus grande, la plus sublime des charités dans son sacrifice. Ainsi le prêtre, uni à notre Seigneur dans son sacerdoce, l'est aussi dans la victime. Et nous devons bien dire que c'est là le point, un point essentiel pour garder le sacerdoce. L'Esprit de Jésus crucifié. Le prêtre, nous dit le Concile du Latran, sacerdos est sacrificium. Le prêtre est un sacrifice. Le sacerdoce est un sacrifice. En infusant en vous le caractère sacerdotal, notre Seigneur vous donne cette mission de continuer son sacrifice. Le prêtre est pour le sacrifice. C'est là sa raison d'être. C'est là qu'il trouve son identité. Le sacrifice de la croix qu'il renouvelle à l'autel. Sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le prêtre principal. C'est lui la victime. Mais qu'il serait bien étrange de voir le prêtre monté à l'autel, uni si intimement à cet acte sublime, et qui refuserait d'y apporter sa goutte d'eau dans le calice de notre Seigneur. Les croix, vous les aurez. Notre Seigneur vous a déjà fait boire son calice. Il appartient au prêtre, précisément dans cette charité qui unit au souverain prêtre, de s'unir à sa croix, de s'unir à son esprit de victime, de renoncement, de dépouillement. Le prêtre, c'est un autre Christ. Moins il y aura de lui-même, plus il y aura de la place pour notre Seigneur. Mais la Sainte Église ne laisse pas les ciboires à l'extérieur. Elle les cache dans le tabernacle. C'est une deuxième protection. Ce tabernacle cache à nos yeux ce qu'il nous restait encore de consolation sensible dans le regard de notre Seigneur. Le tabernacle nous oblige à un acte de foi dépouillé de toute référence sensible, une foi très pure. Nous croyons à la présence réelle sans même voir l'hostie cachée dans le ciboire et dans le tabernacle. Et nous l'adorons. Ainsi, la deuxième protection du sacerdoce, c'est la foi. Le prêtre que vous voyez est un peu comme l'hostie. Ce que vous en voyez n'est pas l'essentiel. Vous n'en voyez que les apparences, comme l'hostie. Et ces apparences peuvent être variées. Il peut même y avoir toutes sortes de défauts dans les saintes espèces. Certaines seront colorées, d'autres auront perdu quelque chose de leur forme bien ronde, d'autres encore seront gondolées, auront peut-être un tout petit goût différent. C'est le même Jésus. Ainsi le prêtre sont les apparences douées de plus ou moins de qualité, de plus ou moins de défauts. C'est le même Jésus, c'est le même notre Seigneur qui célèbre à l'autel. Ceci est mon corps. Je t'absous, qui pardonne. Le prêtre, c'est un homme de Dieu qui doit rappeler précisément aux fidèles, au monde, l'existence d'un ordre surnaturel, non visible, atteignable seulement par la foi. Quiconque veut s'approcher de Dieu, nous dit saint Paul, doit croire que Dieu existe. Cela nous semble évident, n'est-ce pas? Eh bien, le bon Dieu, dans sa sagesse infinie, a pensé qu'il fallait nous le dire. Quiconque veut s'approcher de Dieu doit croire. Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi, et pas n'importe quelle croyance, mais la foi en ce que Dieu nous a révélé et qui nous enseigne par sa Sainte Église. La foi catholique, à temps, à contre-temps, il faudra rappeler à ce monde qui oublie, qui veut oublier, qui ne veut pas connaître, dans une ignorance coupable, ni Dieu, ni son Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Le prêtre, c'est un homme de Dieu. Ce caractère sacerdotal est indélébile. Vous êtes prêtre pour l'éternité. Vous êtes appelé à chaque instant à agir en prêtre, à faire office de médiateur. À chaque contact avec les âmes, c'est le prêtre que ces âmes attendent. Votre foi doit être principe de vie. Le prêtre est un homme de foi. Mais le tabernacle, mes bien chers frères, lui non plus n'est pas exposé au vent. Il est enfermé, il est conservé dans une église, aux murs plus ou moins épais, qui coupe, qui sépare ce précieux tabernacle du monde, même du bruit du monde, établissant autour du tabernacle une atmosphère de silence, de prière. De même le prêtre doit entourer son sacerdoce de ces murs épais qui ne permettent pas au monde de pénétrer dans son cœur, de ces murs solides qui établissent dans l'âme ce silence, silence de la prière, de la méditation, de la contemplation, silence que le prêtre devrait conserver même dans les activités les plus absorbantes. Il est toujours l'homme de Dieu, toujours constitué inisque sunt ad Deum dans les choses de Dieu. Toujours il doit avoir devant lui ces grandes vérités de Dieu. Ne pas se laisser dissiper par les événements du monde qui font du bruit et qui passent. Le prêtre a déjà un pied plus que tout autre dans l'éternité. Bien sûr, il faudrait rappeler encore bien d'autres vertus, mais nous voyons là certainement des moyens nécessaires, plus que jamais dans ce monde qui se voue tout simplement à la vie sensible, à la vie des sens, et qui en reste là. Et nous demanderons à Notre-Dame de la merci, dont c'est la fête aujourd'hui. Notre-Dame qui a demandé plusieurs ordres pour la délivrance des captifs, qu'elle vous tienne cette grâce d'être libre, libre de ses attaches, libre de ses attaques du monde, de vous-même, pour être tout à Dieu. Et qu'ainsi libéré, qu'ainsi donné tout à Dieu, vous travaillez ardemment sous son étoile à libérer les autres, les âmes du péché, à les tirer de là, à les gagner pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour sa Sainte Église, pour la gloire de Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi.